couscous, c'est xuxum, c'est le couscousier avec des trous, des trous, 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 couscous, 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 couscous. Enfin, je sais pas si vous voyez l'image que fait le mot couscous.
Le goût du monde. Clémence de Navy.
Bonjour, bienvenue dans Le goût du monde. Le monde autour d'un plat et le monde dans un plat. Le couscous, bien sûr. Le couscsi, il rassemble et finalement nous ressemble au fil des années. Plat évocateur de mémoire et d'odeur, plat identitaire. Lui qui n'était pas d'ici, finalement. Il se fond et se mêle aux saveurs des pays où il se trouve et conquiert les cœurs. Bonjour, Nordine Abilade.
Bonjour, Clémence de Navy.
Alors, ce couscous qui conquiert les cœurs, on est d'accord?
Oui.
Hein, déjà, dire que vous êtes chef cuisinier d'un restaurant qui s'appelle Ami Chemin. Nous sommes à Paris, dans le sud de la capitale, rue Boulard au 31, dans le 14e, et que vous êtes originaire de Zarzis en Tunisie, breton de cœur, puisque votre femme est bretonne, et corse aussi d'âme sœur, on est d'accord?
D'adoption.
D'adoption, on a déjà pas mal voyagé, c'est ça qui est bien. Et dans toutes ces étapes et partout, il y aura un couscous sans aucun doute. Vous êtes l'auteur de Paris-Tunis, et dernièrement, Couscous pour tous, sans recette, pour tous.
Oui.
Et de tous les jours. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est, j'ai dit, c'était évocateur de mémoire et d'odeur, ce couscous. De quelle mémoire pour vous, Nordine Labiade?
Les mémoires du couscous, c'est quand on passe par la cuisine et on voit les couscous en train de se préparer, ou en route, on mesure le temps pour retourner vite les déguster. Et ça, c'était dans toutes les maisons qui nous entourent. Chez la grand-mère, chez la tante, chez le voisin. Il y a la même couscoussière, à la même heure, partout dans toutes les cuisines. Donc ça ne fait pas d'innovation pour nous, mais c'était quelque chose qu'on adore. Mais en même temps, c'est une très très belle routine.
Et est-ce qu'on s'en souvient quand on est enfant et que ça fait autant partie de la vie et du quotidien que ce couscous, cette vapeur, cette graine, quand elle est là tout le temps? Est-ce qu'on réalise à combien elle est importante a posteriori?
Quand on s'absente, je pense au premier voyage, c'est là qu'on nous manque. Mais trop tôt, on fait la différence entre le couscous des voisins et de la famille. Chaque personne aura son couscous. Et donc, vite fait, on fait la différence, on goûte même à l'aveugle, et on sait que ce n'est pas notre couscous, c'est tel couscous de la grand-mère, de la tante. Et chaque personnalité, elle a son propre couscous, et ça, c'est étonnant. Comment. J'arrive pas à voir pourquoi ils sont différents d'une maison à l'autre, mais avec le temps, j'ai compris.
C'est difficile pour vous même de savoir si le couscous de votre grand-mère, celui de votre tante, de votre mère, avait un goût différent.
Oui, la grand-mère, elle va utiliser tout son tour dans le jardin, des petites herbes sauvages. La maman, plutôt, elle va avoir un couscous débordé. Entre les linges, les vaisselles, les sorties de l'école.
Et plus le temps, quoi.
Voilà. Un couscous où il y a des invités, ça va être un couscous un peu imposant, montrer qu'il y a de la viande, un peu trop surfé. C'est comme un couscous, c'est comme s'habiller, en fait. De temps en temps, on s'habille vite fait et on peut sortir comme ça pour voir les amis. De temps en temps, il faut se saper. C'est le couscous, c'est pareil, en fait.
D'accord, il s'adapte en fonction des situations et de ce dont on a besoin. J'ai lu quelque part, pas très loin d'ici, puisque c'est votre livre que j'ai sous la main, que c'est un peu votre Madeleine de Proust. Il a quel goût, le couscous de votre Madeleine?
En fait, c'est ma Madeleine, on peut être précis, c'est la Madeleine de mes amis et mes proches, parce qu'ils me demandent que ça. Donc, je me suis fait ma Madeleine parce que les gens que j'aime bien et les gens qui m'aiment bien, ils me demandent un couscous. Et à force, j'ai décidé de partager cette Madeleine avec tout le monde maintenant.
Oui, parce que ce n'était pas une évidence pour vous, initialement, quand vous êtes arrivé, vous avez commencé à cuisiner à mi-chemin. Le couscous, vous ne l'aviez pas très envie de le mettre directement à la carte. Est-ce que vous pouvez nous expliquer
exactement
votre rapport, justement, à ce couscous?
Oui, Clémence, je voulais passer à autre chose. Je voulais garder ça, c'est mon jardin intime, c'était pour les amis. Mais tellement les gens me demandent, à un moment c'était un peu agaçant, mais j'ai mal compris le message, c'était un message d'amour. Et quand j'ai bien compris, j'ai décidé de partager l'amour du couscous, des Français ou d'ailleurs, j'ai visité des couscous pour qu'on puisse les réaliser dans le monde entier, pour tout le monde, pour enlever cette grosse barrage, voilà, que les gens ils ont entre aimer le couscous et faire le couscous. Mon but, que les gens ils se lancent et font leur couscous. Et évidemment, ça va être bon, et la prochaine fois, ça va être meilleur, et un jour, ça va être moins bon. Et je veux que les gens font leur couscous, au lieu d'attendre, de déguster, aimer pas le faire, je trouvais ça pas juste. Donc, je voulais faciliter la tâche, et que chacun ait fait son couscous.
Donc vous vouliez que les gens mettent les mains à la pâte, en fait, aussi.
Voilà, parce que...
Qu'ils se l'approprient, voilà. Ce couscous.
Parce que les gens, ils parlent tous du couscous des grands-mères, du couscous des tantes, du couscous des gens qui sont déjà partagés. Leur couscous sont partis. À eux de mettre les mains à la pâte, parce qu'il y a des petits-enfants derrière qui veulent avoir le couscous de leur mère, au lieu d'attendre le couscous de la grand-mère qui est plus là. Donc je voulais que les gens, ils vont dans le sens du partage, et on est tous l'enfant de quelqu'un, et donc ça ne peut pas s'arrêter à certaines personnes, malgré qu'on garde les souvenirs, c'est sympathique.
Donc ce côté vraiment sans frontières du couscous, ouais. Ce côté généreux et rassembleur du couscous, c'est pour vous vraiment le message que doit porter ce plat, mais pas seulement dans la dégustation.
Moi, je voulais les donner avec 100 recettes de couscous. Il y en a des couscous qui visitent tous les terroirs français, tous les bassins méditerranéens. Il y a un couscous qui est un peu aux saveurs indiennes. Donc, je me suis dit, partout dans le monde, s'il y a de la graine, comme en Afrique et tous les graines qu'il y a, d'adapter notre couscous qui est rassembleur. En fait, c'est le mot de couscous, c'est plus loin que le plat même. C'est rassembler les gens autour d'un plat où on a mijoté dedans une céréale qui est locale, des légumes locaux, et on va les manger en même temps ensemble. Et entre-temps, c'est un plat économique, quand on revient à la couscoussière par rapport aux méthodes de cuisson et sources de chaleur. Et voyez le couscous tout à l'heure en venant vers votre radio, dans le taxi, je me dis, qu'est-ce que je peux rassembler le couscous à quelque chose? Je pensais au football. Donc le foot, c'est né en Angleterre et après c'était partagé dans les colonies anglaises. Et partout dans le monde, on jette un ballon sur un place, c'était mon jeu préféré, dans un aéroport, tout le monde joue au foot. Donc tout le monde peut faire un couscous de 100 façons. Au foot, on peut jouer à 10, à 12, à 3, à 6. C'est le plat, il mérite d'être comme ça et d'être partagé, transféré et inviter des gens à manger un couscous. C'est pas comme on l'invite à manger un gigot rôti ou un gros côte de bœuf. Il y a quelque chose de très ouvert, de l'amical, une ouverture, de l'amitié, de l'amour quand on partage un couscous.
Bon appétit la famille.
Merci.
On sent que c'est fait avec amour. Hein.
Alors c'est une toute petite bulle d'un film qui s'appelle La graine et le mulet.
Kéchiche.
La graine et le mulet, c'est aussi une ouverture et un partage. Et vous avez fait un couscous dédicace, d'ailleurs, à la graine et le mulet. Est-ce que vous pourriez nous en dire deux mots de ce couscous-là?
C'est un couscous au poisson, évidemment. Et en période, les poissons étaient moins chers que la viande. Et on cuisinait au poisson parce qu'il n'y avait pas de chaîne de froid. Les poissons, le matin, elle est au tarif normal. Et à 11h, elle est presque à moitié prix. Et donc, les gens, ils sont adaptés à la localité, ils sont au bord de la mer et ils font un couscous au poisson. Dans le désert, ils vont faire un couscous aux viandes séchées, aux cuves de légumes. Donc, ces films, vraiment, ça a marqué sa génération, de cette sens d'ouverture, parce qu'on a remarqué que les Français adorent le couscous et le monde entier. Il y en a en Afrique, en Sénégal, il y en a en Niger. Il y en a partout en Inde.
Mais comme vous l'avez dit d'ailleurs, et peut-être que c'est le moment de rappeler, qu'est-ce que c'est que le couscous? C'est la graine, c'est la semoule. Qu'est-ce que c'est que le couscous? C'est un plat?
C'est un plat où il y a une alchimie magique qui est entre un bouillon, le légume, une céréale, une viande ou un poisson quand il y en a, et tout est cuit sur le même outil de cuisson, c'est la couscoussière, ça veut dire un partie basse des chaudrons qui va contenir les liquides, et un partie haute, c'est les passoires, où ça va être cuit vapeur.
Donc une partie haute qui est percée de petits trous,
voilà,
par c'est laquelle percée. S'engage la vapeur.
Voilà. Et si on monte les périodes romaines et plus loin que ça, on a trouvé des outils en terre cuite et c'était percé avec une feuille de palme. Et ces décusseurs vapeur existent déjà. Et c'est une source de chaleur centrée en bas de cette couscoussière, donc il n'y a pas de perte. Et on voyage avec la couscoussière. La mariée, elle a dans ses cadeaux une couscoussière.
Dans sa dot, elle a des cadeaux, des bijoux et une couscoussière.
Voilà, la cuisine, ça s'arrête à une couscoussière.
Vous nous avez apporté un mini modèle de couscoussière.
Oui.
On peut dire que c'est une couscoussière pour combien? Là, on fait un couscous pour 3-4 ou non?
Oui,
pour
4. C'est tout le temps généreux le couscous parce qu'il est meilleur le lendemain. Et on mange à midi, on a faim à 14h.
Donc on peut faire réchauffer la semoule en plus, c'est ça qui est bien. Et vous donnez toutes les astuces d'ailleurs pour pouvoir manger son couscous sur la semaine, même si on veut, si on en a fait beaucoup. Et donc c'est vraiment un joli ustensile de cuisine parce qu'il va sur le feu de bois, il va sur la gazinière, il va un peu, même presque dans le four j'imagine. Non, ça ne marcherait pas dans le four.
Non, sur le feu de bois. Et vous voyez la forme de couscoussière, elle est un peu ronde pour que les légumes ne s'écrasent pas. On voit beaucoup de nouvelles couscoussières qui sont comme un tube tout en longueur. Je ne conseille pas parce que les légumes finissent par s'écraser. Il faut avoir cette rondeur en bas pour que les légumes même tournent l'un sur l'autre. Grâce aux chaleurs et le bouillon, et ça tourne et ça ne s'écrase jamais. Mm-hmm. Donc quand c'est en tube, ça change tout. Et là, il y a les parties aussi, les magfoules, les parties où on peut mettre un torchon ou un petit bout de tissu.
Donc entre les deux,
pour compresser la vapeur. Et on les fait humidifier. Après, ça sèche et ça tient la couscoussière pour que les vapeurs passent absolument par le haut.
D'accord. Ce tissu, j'imagine qu'il est assez récent. Est-ce que, dans vos souvenirs, vos grands-mères utilisaient autre chose pour justement empêcher la vapeur de s'échapper ?
Les anciens, peut-être, utilisaient une pâte à la base de poudre de couscous, très très fin. Ils mettent une pâte qui va sécher tout de suite, une pâte de farine de blé. Mais j'ai vu tous les bouts des foulards de ma mère finir en bout du couscoussier, que ça change toutes les semaines. Et ça prend feu de temps en temps sur le côté. Et c'est de toutes les couleurs. Et c'est...
En tout cas, là, il est très joli. On aura pris une photo, évidemment, pour qu'on se rende compte, même si on imagine. Alors, on dit le couscoussier ou la couscoussière, d'ailleurs ?
Chez nous, c'est là, c'est féminin.
Ben oui, parce que c'est une forme assez féminine. Elle est généreuse, justement, avec...
Les foyers, c'est la femme, c'est jamais été l'homme. L'homme, elle est là, désertaire, soit elle est envoyeur. Mais la femme est tout le temps là.
Ouais,
c'est féminin.
Avec sa couscoussière. Le blé, il est indissociable du couscous.
Oui, malgré que dans des autres régions, comme vous savez, vous avez déjà signalé qu'il y a plein d'autres graines en Afrique qu'on utilise. On utilise même les riz, un couscous des riz.
Tout à fait.
Des mils, du sorgho. Oui, beaucoup d'orge.
En fait, c'est une façon de préparer la graine qui donne le couscous.
En fait, le couscous avant, il était plus lourd, plus consistant que maintenant. Parce qu'on utilisait le blé même, juste concassé avec une meule en granit. Donc, c'était vraiment les blés entiers concassés, comme le boulgour. Mm-hmm. Et on va les cuire à vapeur. Donc, ça prend plus de temps en cuisson et ça tient plus d'énergie, plus dans le ventre sur toute la journée. Mm-hmm. Après, on a moulu la graine et on a reconstruit la graine à la même forme que la graine mère et c'est devenu plus léger. Et on les fait bien sécher pour le conserver plus longtemps. Donc, les premiers couscous que j'ai mangés, que ma grand-mère avait fait, et si elle a pris aussi aux anciens, il n'y avait pas la poudre pour faire le couscous. On ne fait pas rouler sa graine et laisse faire sécher. C'était la graine même qui était moulue et mise dans le couscoussier. D'accord. Donc, les gens, quand ils voyageaient, ils ont une meule, ils ont un couscoussier, ils ramassaient les blés, ils vont concasser les blés. Et les cuire directement dans le couscoussier.
Et ça devait avoir un goût incroyable.
Oui, très énergique, un goût de bambou, un goût de paille. C'est l'épée du blé ou de l'orge qu'on a concassé, qu'on a tamis. Et on peut même l'humidifier, laisser tremper et faire un pain avec. Mais c'était les grains même. Maintenant, c'est des grains. Un quart d'heure après, c'est concassé. On fait un couscous directement.
D'accord.
Je l'ai déjà mangé, mais c'est un couscous
qui tient au corps.
Pour travailler la terre après.
Voilà, il faut que ce soit utile pour la journée. Ça... Et donc, ensuite, la deuxième version, on va dire, de ce couscous, c'était une petite graine avec une plus grosse qu'on agglomère. Comment ça se passe
En fait, c'était la poudre. On a moulu la graine parce qu'il commence à avoir des moulins. Et après, pour reconstruire la même graine, on fait humidifier cette poudre avec de l'eau salée, et les faire rouler, et ça germe, et ça fait des petites graines, et on les passe au tamis pour avoir un calibre. Mm-hmm. Avant, tout le monde, ils font la même graine pour tout le monde. Maintenant, on peut faire une graine fine, une graine grosse, et on les fait sécher longtemps pour enlever l'eau, et on peut les conserver pour 6 mois. Et après, les industriels, ils ont inventé la graine moyenne, la graine petite, et ils ont inventé un couscous qui est déjà pré-cuit vapeur. Elle est déjà cuite vapeur une fois.
Ouais, du coup, le temps de cuisson est bien plus rapide.
Le plus court. En fait, les couscous, intelligemment, ils s'adaptent à notre vie d'aujourd'hui.
Oui, c'est ça. Au gré des années, maintenant, on n'a plus le temps. Donc, oui. On fait des couscous débordés, mais un petit peu moins débordés parce, que, parce qu'on a un peu plus de temps. Je voulais juste vous proposer d'écouter Fatema Hall, qui est donc cuisinière marocaine.
À Paris,
qui a beaucoup écrit sur le geste en cuisine.
Oui.
Et qui est donc chef de la Mansouria sur l'importance du couscous en termes d'éducation et d'ouverture, d'introduction au monde, en fait.
Vous savez, la nourriture, son histoire est très, très simple. On mange ce qu'on trouve autour de nous. Après, ça devient une civilisation. Quand on n'a plus faim, là, ça devient, on invente des recettes. Le couscous, pour moi, est avant tout le plat d'éducation, où on apprend à partager, à respecter la place de l'autre et aussi à faire la différence entre les différentes saveurs dans le même plat. C'est vraiment une éducation, presque pas totale, mais une grande partie de l'éducation pour un enfant, c'est vraiment le couscous.
Est-ce que vous partagez ce sentiment ?
Je partage la même chose que Fatema Hall, mais je pense que c'est une idée, c'est une règle qui est ouverte à toutes les cuisines régionales du monde. Ça va être la même chose avec les pot-au-feu, ou la même chose avec un béabès, ou la même chose avec un curry. Parce qu'on mange tous autour du même plat. Du coup, il y a des règles, il y a des codes de bien vivre, de faire attention aux plus âgés, aux plus petits. La règle, je pense, elle est même, ça ne tient pas qu'au couscous. Ça tient au couscous parce que Fatema Hall ou moi, on a mangé le couscous quand on était petit. Mais c'est la même chose pour quelqu'un qui a mangé un curry. Donc c'est universel, je pense.
En tout cas, c'est une façon d'avoir un plat qui va rassembler autour de la table et qui va faire que tout le monde s'assied. Et donc on regarde et on va partager.
On va partager, on va faire attention qui a mangé, qui n'a pas mangé. C'est là qu'on va prendre la sensibilité. On va, je pense que c'est partout dans le monde, des variétés comme ça, même aujourd'hui.
Le goût du monde. Clémence de Navi.
سغناس دوان دوت لان تدوان لغشران تسادا هكتان ديما صار نبدا سنتر همانين الوان تنيري سنتاهي سجرا
ولدن تابسيت ديو ساينا تنتاو شمتا
des Nigériens Dag Ténéré sur RFI. Bienvenue si vous nous rejoignez, vous écoutez Le Goût du Monde dans un plat qui raconte le monde. Le couscous pour tous avec Nordine Labiade, le chef cuisinier du restaurant à mi-chemin à Paris. Il cuisine et restaure la vapeur active dès l'aube dans les cuisines et les parfums de la graine et des légumes. Quelle tête avait votre graine ce matin, Nordine Labiade, au restaurant ?
Elle était moitié pleine, la couscoussière, parce que les Parisiens ils sont de retour. Et on va orienter notre cuisine vers une cuisine un peu plus sportif.
un peu plus sportif. En tout cas, le couscous et le blé, la manière dont on traite la graine, c'est très très vieux cette histoire, en tout cas dans le Maghreb et en pays berbère. D'où vient le couscous ? Oui. Puisqu'on raconte qu'il y avait des plats déjà avec des pâtes. On a un mélange de pâtes et de couscous mélangés depuis très longtemps. Cette histoire-là, elle se traduit également dans les recettes de couscous que l'on a aujourd'hui ? Elles ont traversé les siècles aussi ?
Oui, c'est une technique ancienne. faire rouler la graine, elle fait aérer, enlever l'humidité, elle prend du corps, elle sera moins collante, elle est passée dans une plusieurs tamis. Et on peut mixer une cuisine moderne aujourd'hui avec des méthodes anciennes et des saveurs anciennes et ça donne un très très bon résultat aujourd'hui parce que c'est vrai, on est pris par le temps. Et on a tous un agenda, avant on n'avait pas. Et on peut adapter et à manger un très bon couscous, plutôt moderne, plutôt... L'amour de la graine, c'est l'essentiel.
Ouais, c'est ça en fait, voilà, qu'il faut bien noter, j'ai l'impression. Ouais. Parce que quand on parle de couscous ou quand on entend parler de couscous, il y a quand même cette graine qui est fondamentale.
C'est hallucinant. Hein.
Ouais. On pourrait la manger nue, cette graine.
Oui, avec un pincée de sucre, avec un filet d'huile d'olive. Moi, j'ai des clients, ils n'ont même pas reçu de la couscous qui est déjà plongé la fourchette. Ils sont en train de déguster la graine. Il y en a qui les veulent très, très bien mouillés avec les bouillons. Il y en a qui aiment sec, un peu légèrement mouillé. Chacun a son rapport. Il y en a qui mettent tous les légumes et rajoutent la graine en haut. Donc les gens, c'est une liberté, c'est comme une danse, comme je disais avant. Le couscous, chez chacun, il se trouve, c'est un dialogue entre l'amateur du couscous et le couscous, ils sont en fusion, ils dialoguent, ils sont là entre tu me fais ça, tu me donnes ça, je te donne ça. Et c'est... Moi, je n'ai jamais donné une règle au client comment il devrait manger. Je laisse les gens parce que je sais qu'avec le temps, ils ont changé leur manière de manger, ils ont le souvenir. C'est ce que je dis, que faire la cuisine, c'est simple. Manger, ce n'est pas simple. Chacun son rapport, chacun ses souvenirs. Manger, c'est très compliqué. Qu'est-ce qu'on mange, devient d'où, quand, question budget, ça veut dire engagement aussi pour la terre, engagement pour ses racines, son identité. Manger, c'est très compliqué. Donc, il faut laisser les gens manger avec la manière qu'ils veulent parce que c'est plutôt quelque chose de plus profond que ça.
Vous avez des gens parfois qui vous demandent justement des conseils. Comment est-ce qu'on est censé manger? Est-ce qu'il faut servir la semoule?
Quand on les conseille, on voit qu'ils ne savent pas. J'ai dit, tiens, moi, j'aime bien comme ça. Et vous, je ne savais pas, ils sont soulagés. Il y a un troisième, ça veut dire, c'est un dialogue encore. Et donc, c'est le couscous, c'est un dialogue. Et c'est une intimité. On fait un couscous, personne ne sait que notre couscoussière, elle ressemble à l'autre. Personne ne sait qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Il y a un dialogue, il y a un amour, il y a l'intimité, il y a tout dans ce plat qu'on aime partager, et ça fait un effet quand on l'amène à table, ça fait « Ah !» Moi, ça me dit « Pourquoi ils font ça ? Je ne comprends pas, moi, c'était... »
C'est vrai, c'était ça déclenche quand même beaucoup des exclamations, ouais, des sourires, de la bonne humeur. Si l'on parle de France, notamment, où ça, ouais, déclenche vraiment un vrai plaisir, est-ce que c'est l'image qu'on se fait du couscous ou c'est le rassemblement ? D'où vient cette source de bonheur qui, justement, germe quand on apporte le couscous, selon vous? Comment est-ce qu'il a traversé la Méditerranée?
Je pense que la plupart de nous, soit on l'a mangé le couscous pendant notre enfance, soit on était invité pour manger un couscous. Et ça, ça marque. Ou on raconte l'histoire du couscous. Le couscous, il a émigré aussi. Il faut demander au couscous, en fait.
Alors, le couscous que j'ai interviewé une fois m'a conté des voyages à travers la Méditerranée et donc de gens qui venaient travailler en France, notamment après la Deuxième Guerre mondiale et même au moment de la Première Guerre mondiale, et qui ont apporté ce plat. Et qui n'était pas forcément mêlé à la cuisine de tous les jours de tous les Français et qui est devenu cependant le premier plat des Français, celui qu'on aime le plus. On dit steak frites ou couscous. Ça, c'est magique.
Et tous les âges.
Et tous les âges.
De l'enfant à partir des 2 ans, le jeune, les aiment avec la saucisse, les bobos, les vieux, tout le monde aime le couscous. Et moi, je n'arrive pas à comprendre, franchement, cet amour de ce plat que j'ai fait tout pour partager. Et il est nommé au patrimoine mondial de l'UNESCO.
Il est nommé au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Ouais. Il y a des festivals du couscous. Oui. C'est une vraie passion pour le couscous. Nordine Labiat, quand on a parlé brièvement de la nature de la graine, donc on a parlé du blé vert aussi. Est-ce qu'on peut faire de toutes les céréales?
Les blés verts, c'est comme le Beaujolais du couscous.
Ah, ça, on ne connaît pas le Beaujolais. Vous voulez dire que c'est une graine qui n'est pas mûre?
C'est une graine qui n'est pas mûre, qui est verte. Et pour fêter la récolte, on va ramasser un peu de graines, le concasser vite fait et la cuire. Et toute fraîche, c'est la jeunesse. Et on va cuire cette mardour, on dit. khadour, c'est les verdures. Et on va les cuire, les plutôt très verts. Et on va, parce qu'on a moins de réserves derrière. Et pour fêter la récolte, on va faire un couscous très, très vert avec la première graine pour un peu dire bientôt c'est la récolte. Et c'est une fête. Toutes les récoltes dans tout le pays, quand on ramasse les oliviers, les raisins, les vins, les graines, les céréales, c'est tout le temps en fait, parce que c'est là où il y a toute l'économie qui va se mettre en route.
Les provisions pour l'année qui vient.
Oui, et on embauche des gens qui n'ont rien pour pouvoir être pillés, pour acheter. Il faut beaucoup de monde pour ramasser les blés.
Et c'est un blé vert, donc on peut faire... C'est un friquet, c'est ça?
C'est comme
ça
qu'on l'appelle,
le friquet. Ouais. Et alors, vous avez aussi du couscous vert. Alors, est-ce qu'on peut faire du couscous vert, donc avec de l'herbe, herbes, hein, et du friquet?
Oui, c'est encore mieux. C'est encore mieux.
Racontez-nous un petit peu ce couscous.
Moi, je voulais amener la fraîcheur dans la graine et avoir, quand les bergers ou les gens qui n'avaient pas le temps ou les moyens pour aller faire des courses, les animaux sont dans un coin et broutent l'herbe et les enfants jouent au foot et les mamies, papis sont en train de ramasser tous les herbes sauvages. Et quand ils vont cuire la couscous, ils vont lâcher très très fin et faire un couscous très 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 vert. Avec les herbes qui sont dedans, donc c'est très très parfumé. Il y a à peine un bout de gras, un oignon dedans, presque pas de légumes. C'est le couscous qui s'appelle safa. Le safa, c'est tout ce qui est sec. Dans des régions en Algérie, safa c'est plutôt sucré. Mais chez nous, il y a les safa salés. C'est les safa qu'on va les manger secs, cuits vapeur mais secs, juste avec des tomates confites, des olives, des herbes. On va l'adapter, ça reste un couscous plutôt sec, plus d'été, on va boire du lait caillé avec, ou manger des pastèques, on mange beaucoup de pastèques, en même temps que le couscous. Ou des thés verts, un thé vert pas trop sucré, qui accompagne comme liquide, ou des jus de palme. Donc il y a beaucoup de couscous secs, qui s'appellent les safa, pendant les périodes chaudes. Parce qu'avec la chaleur, ça tient, ça ne vire pas, ça ne fermente pas. Il y a des couscous verts secs comme ça qu'on les fait voyager pour une cérémonie, un mariage. Donc un couscous pas très mouillé et on met beaucoup de salé sucré dedans. Il y a les relais juste dans l'huile des cuissons et les gras des cuissons. Et avec ces couscous qui voyageaient des 100 km. Donc elle arrive intacte à notre région. Donc les manières de faire, le temps, la saison, la température. Les anciens, ils ont des méthodes. Ils n'ont pas un couscous tout le temps le même. Donc ils s'adaptaient. La manière de préparer, la température extérieure et tout, pour que leur couscous se soit tout le temps, parce que c'est réussi. Ils mangeaient un plat, toute l'année, c'est tout le temps le même plat. Les pâtes, elles sont arrivées avec la colonisation italienne dans le sud de la Tunisie et la Libye. Et c'est venu petit à petit, la pasta. Donc, c'était que la graine avant.
On voit bien qu'il y a des civilisations de couscous. Ouais, ouais. Parce qu'il y a des habitudes de manger couscous et de le faire. Il est évident qu'en France, par exemple, je ne saurais pas. Et c'est pour ça que je suis heureuse que vous ayez publié ce livre qui va me permettre de faire du couscous, peut-être même tous les jours, qui sait. Il y a un duo incroyable, en tout cas, que j'ai rencontré à plusieurs reprises, notamment chez vous, Nordine.
Oui.
C'est le couscous boulette.
Oui.
Le couscous boulette, c'est un peu un mariage.
C'est couscous boulette aux herbes.
Couscous boulette de boulette aux herbes. Les boulettes en général.
Boulettes en général. Les boulettes, c'est plutôt, c'était un plat très familial, très juif d'Afrique du Nord. Donc, c'était plat, les boulettes qu'on peut les compter et les pousser au fiston parce qu'il ne va pas manger beaucoup de viande en même temps. Et dès qu'on lui donne une boulette, deux, trois, quatre, à la fin, elle a mangé cinq boulettes. C'était plutôt le couscous des plats à maman juive qui adore son fils, qui à tout prix manger.
Ou petite fille juive aussi, je vous propose d'écouter André Zanamura qui a justement goûté pas mal de petites boulettes.
Oui. On dit toujours qu'il faut faire une petite boulette de la farce qu'on prépare, qu'elle serve à faire des boulettes ou à faire une farce. Et puis, on la poêle et on goûte. Et comme ça, on sait s'il y a assez de sel, de poivre, si c'est assez relevé, s'il ne manque pas si ça... Avant de façonner les boulettes, on ne peut plus y toucher après. Donc, c'est une façon de tester le goût, de prélever une petite boulette et puis de la faire cuire et de la goûter. Donc, moi, cette petite boulette, elle était pour moi. C'est-à-dire que ma mère, avant de commencer à façonner les boulettes, faisait une toute petite boulette, à peine une balle de ping-pong, et puis la faisait cuire pour tester le goût. Et c'est moi qui avais ce privilège-là. Donc, c'était génial. L'alpha et l'oméga, c'est que c'est jamais pareil et c'est à la fois, enfin, On cherche quelque chose aussi quand on les goûte. On cherche un goût qu'on aime. Moi, c'est les herbes. Ce sont les herbes. C'est le propre de cette cuisine tunisienne et qui était pleine d'herbes, avant les épices même. Ce sont les herbes qui donnent le goût avant tout. Et les herbes, en plus, c'est frais et ça sent bon. C'est avant tout persil, persil plat, c'est comme en Italie. Et puis coriandre, aneth, menthe. Ce sont quatre herbes qu'on a rarement l'habitude d'associer. Et ces quatre herbes-là associées, ça fait des farces très particulières et très parlantes de notre cuisine. Et les odeurs dans la maison s'en suivent.
On est d'accord, donc les herbes, c'est quand même un très commun.
Ah là, André Zana, les spécialistes des boulettes, mon ami.
Spécial boulette. Donc c'est étonnant d'ailleurs ce mariage avec la boulette plus conséquente et la boulette et la graine quoi, du couscous.
Oui.
Ça roule, c'est parfait.
En fait, pour enrichir les boulettes, de temps en temps, il n'y a pas assez de viande. On met les mie de pain dedans pour la rendre plus tendre. En fait, pour semblant faire gonfler les boulettes aux viandes qu'il n'y a pas aussi. On peut faire des boulettes comme ça. Et les boulettes aux herbes, c'était les boulettes de la veuve.
La veuve,
elle n'a pas beaucoup de moyens, il n'y a pas un homme qui travaille. Elle va ramasser tous les fans des carottes, la fan des blés, une botte de blettes, une botte de persil, beaucoup d'aneth. Il va faire construire des boulettes qui s'appellent rabouda. La rabouda, c'est la façon de faire tourner les boulettes.
De faire tourner la boulette dans le creux de la main.
Ouais, on mettait même un peu de semoule dedans, un peu de gras d'agneau, on les couvre à paire. Moi, c'était mon plat préféré jusqu'à aujourd'hui. C'est une manière, il y a un goût, c'est cuivre à paire. C'est un couscous aux boulettes aux herbes, c'est le rabouda, et c'est un plat hyper bon, hyper bon. On peut le manger même tiède, et on fait attention pour que ça casse pas, ça cuit dans la couscoussière, et ça donne tous les parfums de cette graisse qu'on va mettre là-dedans, et les herbes, dans la semoule, parce qu'elle va être cuite dans la semoule.
D'accord, donc du coup ça va s'infuser en fait.
S'infuser dans la graine, et voilà, on va les prendre avec deux cuillères pour pas les casser, on les mange tiède, hyper chaud, et moi je les fais d'une façon un peu plus méditerranéenne, avec un sauce charmola bien aillé et bien tomaté, on les pose dedans, et là tous les jeunes mannequins, ils se régalent avec les boulettes aux herbes.
Parce que c'est léger, en définitive.
C'est léger, c'est léger.
Et est-ce que vous rajoutez donc sauce charmula, en l'occurrence, pour votre interprétation? Est-ce qu'il y a d'autres sauces qu'on peut mettre? Ou est-ce qu'on peut juste mettre l'eau du bouillon, peut-être?
Même pas d'eau, il ne faut pas les faire tremper. On peut faire un sauce à l'anchois, un sauce à l'estragon, un huile d'olive un peu relevée. Il faut le laisser comme ça et mettre quelque chose, un condiment, un sauce à l'harissa allongé. On peut juste aller un peu le relever et revenir vers les boulettes.
Moi, ce que j'adore aussi, c'est qu'il y a une recette de boulettes de sardines.
Oui, c'est inspiré des kifta aux sardines.
Oui, racontez-nous.
En Tunisie, on fait des kifta aux sardines. Donc, c'est les sardines qu'on va les tirer complètement l'arête d'un coup.
Sardines fraîches.
Sardines fraîches. On va les paner des deux côtés dans la farine, dans les œufs. Et on va les frire. Et on va les farcir avec une farce. C'est la même base que la kifta. C'est du persil, de l'ail, un peu d'oignon haché très fin. Et on ferme les sardines, on va les frire. Donc il y a cet goût d'herbe. En fait, l'oignon, c'est le roi des légumes. Le roi du légume mondial, c'est l'oignon. Donc il y a beaucoup d'oignons hachés, de l'ail et des persils.
D'ailleurs, il y a un couscous aussi avec des oignons.
Confite, entière dans la cocotte.
Incroyable.
Dans une cocotte bien, bien fonte. Donc, en fait, les mélanges aussi des outillages, les mélanges de culture et des techniques, ça donne des merveilles aussi. En fait, la cuisine, ça va nous rassembler, nous, parce qu'on n'est pas là-bas. On est ici, du coup, avec ici, qu'est-ce qu'on peut faire avec les souvenirs de là-bas.
Le goût du monde. Clémence de Navy.
Non, ce n'était pas le radeau de la Méduse, ce bateau, qu'on se le dise au fond des ports, dise au fond des ports. Il naviguait en perpénard sur la grand-mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord. Ces fluctuates, nec mergitures, c'était pas de la littérature, n'en déplaise aux jeteurs de sorts, aux jeteurs de sorts. Son capitaine et ses matelots n'étaient pas des enfants de salauds, mais des amis franco de port, des copains d'abord. C'était pas des amis de luxe, des petits castors et pollux, des gens de Sodome et Gomorre, Sodome et Gomorre.
c'était pas des amis choisis par Montaigne et la Boétie. Sur le ventre, ils se tapaient fort, les copains d'abord. C'était pas des anges non plus, l'évangile il l'avait pas lu, mais il s'aimait toute voile dehors, toute voile dehors. Jean-Pierre, Paul et compagnie, c'était leur seule litanie, leur credo, leur confiteor, aux copains d'abord. Au moindre coup de Trafalgar, c'est l'amitié qui prenait le quart, c'est elle qui leur montrait le nord, leur montrait le nord. Et quand ils étaient en détresse, que leurs bras lançaient des SES, on aurait dit des sémaphores, les copains d'abord. Au rendez-vous des bons copains, y avait pas souvent de lapin. Quand l'un d'entre eux manquait à bord, c'est qu'il était mort. Oui, mais jamais, au grand jamais, son trou dans l'aune se refermait. 100 ans après, coquin de sort, il manquait encore. Des bateaux, j'en ai pris beaucoup, mais le seul qui ait tenu le coup, qui n'est jamais viré de bord, mais viré de bord. Naviguait en père peinard sur la grand-mare des canards, et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord.
Les copains d'abord, Georges Brassens sur RFI, l'histoire ne dit pas si Georges Brassens mangeait du couscous, mais je pense que oui, très sincèrement, pour écrire une chanson pareille. Nordine Labiat, vous en pensez quoi, vous ?
Ah oui, c'était mon voisin.
Vous écoutez le goût du monde, bien sûr, nous sommes en monde de couscous. Le couscous, couscous comme une litanie délicieuse, enfin moi j'adore. Couscous inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO, et un grand pas également, ça, ce patrimoine immatériel de l'UNESCO, on l'a dit, Nordine. Pour le couscous, c'est une sorte de reconnaissance ultime.
C'est une reconnaissance pour toutes les personnes qui ont offert un jour un couscous et ils ont continué à faire ce plat, pour les gens qui ont aimé manger, aimé partager, aimé offrir. Le couscous, c'est vraiment... C'est les mots et les devenus universels avant le couscous.
Absolument. En tout cas, il réchauffe le cœur, il fait du bien ce couscous-là. On était dans la boulette.
Oui.
Je me suis un peu étendue parce
des
que j'aime beaucoup les, les boulettes, notamment celles de Zana. On a parlé du bouillon, on a parlé des herbes et des épices. Il faut épicer aussi ce couscous. Et là, vous nous avez apporté, Nordine, du bzar.
Du bzar.
Qui n'est pas le ras el hanout.
Non, il n'y a pas de cannelle.
D'accord.
C'est comme un curry. Les currys indiens, ça change d'une famille, d'une région à l'autre. Les bzar, les épices du couscous. Il y a certaines régions qui vont utiliser que les carvis et le coriandre. Il y a certaines régions qui vont faire un bzar, comme un bazar. C'est une famille à l'autre, c'est une épice différente, qu'ils vont les nettoyer, les préparer. Et c'est un bzar qui a préparé ma mère. Il y a de l'ail séché dedans, parce qu'il n'y a pas de l'ail tous les jours. Et elle, elle aime bien couscous aillé, parce que c'est une région où on fait beaucoup de couscous au poisson. Donc il y a de l'ail séché dans ces bzars. Et avec ça, ma mère, elle prépare une autre recette qu'elle prépare sans bzar, avec un peu de piment doux, un peu de paprika, du curcuma, tout est mélangé. Donc, elle a juste à mettre une cuillère et il y a tout le dosage qu'elle a déjà prêt pour son couscous. Mmh. Donc, un couscous épicé, parfumé, ça dépend le goût, ça dépend d'une famille à l'autre, c'est pas la même chose. Il n'y a pas de règle. De temps en temps, on a envie d'un couscous pas trop épicé. Il faut laisser quand même le saveur des légumes aux surfaces. Il ne faut pas qu'il soit trop épicé non plus.
S'exprimer. Vous avez apporté aussi une harissa. Et je vous propose d'écouter Sarah, qui est une de mes collègues.
Oui.
Pour elle, la harissa, c'est un peu fondamental.
Oh, on mange la harissa tout le temps. Ce n'est pas... on mange la harissa par tous les temps. La harissa, c'est comme ça qu'on prononce. C'est un, je ne dirais pas un mets, mais plutôt un condiment comme une épice, en fait, qui a la même valeur culinaire, très important dans la cuisine tunisienne et qu'on utilise dans plein de repas. Contrairement peut-être à ce que les gens s'imaginent, ce n'est pas juste pour donner du piquant aux aliments, mais aussi pour relever le goût, parce que c'est très épicé. Donc il n'y a pas juste du piment, mais on rajoute plein d'épices à ça. Donc ça donne beaucoup, beaucoup de goût aussi et de saveur. On en met en général dans tous les plats où on utilise une sauce, donc y compris dans le couscous, etc. On va toujours mettre un tout petit peu de harissa pour relever un peu le goût. L'idée, ce n'est pas d'avoir quelque chose de très piquant à manger, mais encore une fois, c'est la saveur en fait. C'est toujours voilà, la petite touche qui va relever la saveur. C'est piquant, mais c'est savoureux.
Nordine Labiade, oui. Avant qu'on rentre en studio pour enregistrer cette émission, vous m'avez dit ce sont les Français qui ont apporter la harissa avec le couscous, oui. En tout cas la manière de manger.
Ben moi j'ai grandi en Tunisie, la harissa on les mangeait que dans les fricassés, dans les sandwichs ou dans une assiette complète. C'était la harissa, c'était quelque chose pour manger dans une sandwich. Et en France, j'ai vu que comme Sarah, et les gens ça, ils ont adapté la harissa dans tous leurs plats, un peu plus ou moins. En fait, c'est un manque de quelque chose, et à travers la harissa, on va combler ce manque. Et donc, je trouve, maintenant, on propose une harissa fait maison, excellente, légèrement parfumée à la coriandre. Et donc, au début, j'étais sceptique au fait d'utiliser la harissa dans le couscous, il n'y avait pas besoin. Mais petit à petit, j'ai compris cette alliance entre les piments, la harissa retournée à la viande et la graine, cette valse qui se crie autour du couscous. Et c'est vraiment, c'est en France qu'on a mangé un couscous accompagné de la harissa. Et je suis tout à fait d'accord, car je n'étais pas d'accord du tout avant.
Vous avez été conçu.
Donc je tournais ma veste.
Couscous à la harissa.
J'ai tourné ma veste. Et ils ont raison, parce que c'est une histoire d'amour, c'est plus une histoire de goût. Et à la fin, c'est une histoire du goût, parce que ça se marie très bien aussi. Et les gens, avec la harissa à côté, ils se sentent acteurs. C'est qui les cuisiniers finales? C'est eux, c'est plus moi. Donc ils décident de mettre un peu d'harissa. L'autre décide de ne pas en mettre du tout, ou mettre trop. Donc moi, je n'existais pas. Et c'est mon but que les gens, ils sont acteurs. Et moi, je suis transparent. J'ai envie d'être transparent derrière tous mes plats, moi.
Pendant le confinement, le premier confinement qui était très sévère, on n'avait pas le droit du tout de sortir de chez nous, vous avez cuisiné. Beaucoup. Vous vous êtes réfugié dans votre cuisine, en fait.
J'étais le premier des restaurants qui a ouvert pour proposer un plat à manger.
Parmi les premiers, oui. Et vous avez fait un petit peu, c'était un peu une fonction de restaurateur, dans le sens où on restaure un peu l'âme et les cœurs en proposant ce couscous. C'était vital pour vous que de retourner dans vos cuisines?
Moi, c'était vital pour moi. Je me suis vraiment pris énormément plaisir de ma vie. C'est les périodes les plus joyeuses de cuisine de ma vie. C'est la première période de confinement. Je me suis senti utile à faire qu'est-ce que je devrais faire. Nourrir, faire à manger. Et c'était à travers ce plat que je refaisais avant de le faire, qui est pour mes amis. Et j'ai mis une grosse marmite, j'ai piché mes légumes, j'ai fait mes courses à 4h du matin à métro avec les montres qu'il y a. Il y avait un pénurie quand même, il y avait plus de temps à être fourni. Et j'ai préparé ces plats et j'ai partagé avec des gens qui font la queue devant le restaurant, des gens que je connais très bien, des gens que je ne connais pas du tout. Et j'étais vraiment un soldat avec un couscoussier dans les bras. J'ai adoré.
Là, c'était vraiment toute la vocation du restaurateur cuisinier.
Oui.
De qui partage.
C'était retourner au essentiel. Les gens, il y en a qui sont partis soigner. L'autre, chacun a pris sa poste. On n'est plus dans les cuisiniers qui veulent transmettre côté artistique, rien du tout. On fait à manger, les gens mangent et ça s'arrête là. Et j'ai adoré.
Alors, nous, vous savez qu'on aime toujours une petite note sucrée et on tombe bien parce que le couscous aussi apporte une note sucrée. Alors, on en a brièvement parlé dans l'émission pour l'instant.
Oui.
On a une couscous du goûter déjà.
Oui.
Alors, pour les enfants, petit couscous du goûter, Nordine, comment on le fait ce couscous-là?
On peut le faire en granola avec les restes des semoules.
Voilà, le granola. Alors, ça, c'est un concept, excusez-moi. Le granola couscous, racontez-nous.
On peut récupérer les restes de la graine du couscous. On va concasser des dents, on met des pistaches concassées, des amandes. On peut mettre une noisette de beurre avec ça, du sucre, et tout rouler et faire comme une pâte à tarte. Et on les passe au four. On les cuit à 170, elle devient croustillante, on les sort, on les refroidit. Après qu'on les refroidit, on peut les poser sur un yaourt nature, on concasse cette granola de semoule avec des pistaches ou des amandes, et on rajoute une cuillère de miel et ça nous fait un granola. Du couscous pour les enfants.
Du couscous. Et puis après, on peut rajouter, alors si j'ai bien lu, une dépistache et une clémentine confite aux épices.
C'est bien.
C'est scandaleux de faire des trucs pareils, vous savez, Nordine Labiade. Parce que, heureusement que vous les préparez. À nous maintenant de nous mettre au fourneau. Et vous faites aussi un gâteau de semoule comme une crème brûlée. Toujours avec le couscous.
On fait un grain de semoule très très fin. C'est la vraie semoule fine. On va faire un gâteau de semoule. On les bat, on les cuit dans l'œil, des jaunes d'œufs, un peu de sucre, un point de fleur d'oranger ou des zestes d'orange. Il faut que ce soit très liquide, pas trop compact. Comme ça, au cuisson, on a une tendresse et on les cuit au four. Et après, on va mettre du sucre cassonade et on va les caraméliser au chilimo en haut. En fait, il faut cuisiner soit pour les enfants, soit pour les femmes. Donc là, je cuisine pour les enfants. Et du coup...
Et les hommes, ils ne sont pas amateurs.
Les hommes, ils vont suivre.
D'accord. Dites-moi, Nordine, et si je vous demandais quel est le couscous de Nordine?
Mon couscous préféré, c'est le couscous de l'imprévu, le couscous des surprises. Quand je passe chez quelqu'un ou quelqu'un, il m'invite sans qu'il soit prévu. Et je partage un couscous avec lui, ça sera le meilleur de mes couscous. Que c'était vraiment le couscous qu'ils mangeaient ces gens-là, ces jours-là. Et c'était celui-là, celui d'aujourd'hui. Il n'y a pas un autre qui était fait exprès pour moi. Et ça, c'est vraiment être au plus proche des gens.
Le couscous de Nordine, ça me va bien, le couscous de l'imprévu. Ben, le goût du monde se termine déjà, c'est quand même
déjà
incroyable. Mais oui, je sais, c'est terrible.
C'est terrible.
Hein, c'est terrible. Bon, je ne vous laisserai pas partir, Nordine Labiade, sans un ingrédient et un ustensile.
Je pensais dans mon taxi, avant, c'est mon ingrédient, j'étais l'huile d'olive. Mais je pensais... Je peux être le pain aussi, parce que c'est un ingrédient.
Le pain, ça peut être un ingrédient. Je sais qu'on en a fait un couscous un jour, des miettes de pain. Mais les ça, on en pain, avait déjà fègues. Parlé. Donc, vous seriez le pain.
Je serais le pain.
Oui, puisque c'est à la base du couscous, le pain, presque.
Aussi, on peut le chauffer dans le couscoussier. On peut faire un couscous au pain, avec les miettes de pain, ou concasser aussi les pains très, très secs, les concasser dans une mortier. Il est arrosé avec notre bouillon de couscous. Mais les pains tout seuls, quand il y a un pain quelque part, même s'il est sec de 2 mois, il y a quelque chose à manger. Le pain, c'est pas mal.
Bah, le pain, c'est la vie, surtout quand il est fait de blé.
Voilà.
Et votre ustensile, j'ai l'impression que vous nous avez parlé, là, même sans vous en douter, de votre ustensile.
Mon ustensile, c'est le mortier. C'est le mortier. Je vis tout le temps chez moi un mortier en cuivre. Assez lourd, donc c'était là, tout le temps là. La poignée, le mortier, ça sert pour clouer tous les clous dans le mur. Les bouteilles de gaz pour les fermer par rapport à ma mère, elle s'en sert de tout. Pour casser les amandes, quand on fait thé à l'amande, pour tout. Ça, c'était le marteau. On n'avait pas de marteau, on avait ça. Et ce petit mortier, le mheres, quand quelqu'un ne comprend pas, il dit « t'as une tête de mheres ».
Tête dure.
Tête de mortier. Donc le mheres, il était tout le temps là, c'est le premier outil d'électroménager de la cuisine, mais elles sont électriques. Et c'est le premier outil qui m'a impressionné. Et là, je l'ai mis un à mi-chemin au restaurant, où les personnels de la salle, mes collègues, ils mettent leur pourboire là-dedans.
C'est bien, c'est utile en plus.
C'est utile.
Et si on dédicassait cette émission à votre mère, Nordine Labiade?
Ma broca, ben, elle sera très touchée. Elle n'a rien demandé. Moi, j'ai juste me demandé de faire des courses. Et dès que je retourne la voir de temps en temps en Tunisie, elle est ravie et heureuse quand j'ai fait des courses. Parce que pour elle, sa meilleure coffin, c'était fait par moi.
Merci beaucoup.
Ben, c'est gentil pour ma broca. Merci, Clémence.
Merci à vous, Nordine Labiade. À mi-chemin est au 31 de la rue Boulard, dans le 14e arrondissement à Paris. C'est le lieu du sourire garanti et des goûts merveilleux. Le couscous est à la carte, mais pas que, évidemment. Il se cuisine et se partage grâce au livre « Couscous pour tous », édité chez Solar, dans lequel Nordine livre bien des recettes de ses recettes, et donc des vôtres bientôt. À vous de partager donc les recettes et les couscous que vous aurez fait grâce au livre ou sans le livre, en tout cas à toute générosité, sur la page du Goût du Monde, sur les réseaux sociaux et sur WhatsApp 33 6 43 16 15 66. Merci beaucoup à Cécile Benissi qui a réalisé et mis en onde cette émission. Merci à elle, merci à vous de votre fidélité. Prenez bien soin de vous. À la semaine prochaine. Mijoter rien que pour vous, cette émission était une rediffusion.